Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Je suis un homme moyen, sans genre particulier. J'ai simplement des ressources matérielles modérées, mais suffisantes. Il faudrait donner à tous les hommes, d'une façon permanente, des ressources analogues, sans qu'ils puissent ni les perdre, ni les grossir. À ce moment-là, vous verrez que l'esprit leur parlera à leur tour. Prendre ses responsabilités, telle fut la devise de cet homme qui choisit d'être révolté et de dire non. Son parcours fut placé sous le sceau de la liberté, de l'esprit, consacré à faire triompher la justice et la paix face au fanatisme et à la barbarie. Cet homme, qui fit partie des oubliés de l'histoire, c'est Raymond Nave et c'est sa biographie que nous propose Pierre Petremann dans son ouvrage « Raymond Nave, un humaniste en résistance » paru en 2020 aux éditions Loubatière. J'ai donc le plaisir d'accueillir Pierre Petremann. Bonjour.
Bonjour Philippe Gilbert.
Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour que vous nous expliquiez, que vous nous racontiez, si on peut employer ce terme, la biographie de Raymond Nave, afin que nous puissions avoir des informations et une vue plus précise de ce grand personnage qui est resté et qui est peut-être encore très peu connu du grand public. Je salue nos fidèles auditeurs et je leur rappelle qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Pierre Petremann, peut-on dire de Raymond Nave que c'est d'abord un voltairien et ensuite un jaurésien ou l'inverse?
Question difficile. C'est de toute évidence, de par ses études, un voltairien. Au-delà même de Voltaire, un grand spécialiste des philosophes des Lumières. Jaurès est naturellement présent parce qu'il est un militant de la section française de l'Internationale ouvrière, mais Jaurès, pour lui, c'est bien plus que ça. Et c'est l'explication du sous-titre de mon livre. C'est un duo d'humanistes. Voltaire, passionné par la connaissance, et Jaurès, qui considère, comme vous l'avez très bien rappelé dans le petit texte de Raymond Nave que vous avez cité en début d'émission, que sans éducation, il n'y a pas d'avenir pour l'homme.
Cette grande citation, cet autoportrait de Raymond Nave est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Dialogue essentiel ». Et qui a été publié.
Alors, publié tardivement, parce voilà. Que Dialogue essentiel, c'est ce qui reste. Alors, ce qui a été publié par Francis Nave, qui nous a quittés d'ailleurs dernièrement.
Qui est le fils.
Le fils de Raymond Nave. C'est des textes que Raymond Nave avait commencé à dactylographier. Et lorsque la perquisition de son domicile a été faite en 1944, au mois après son arrestation, tous les textes manuscrits ont été pris par la Gestapo et les textes dactylographiés sont restés. C'est pour ça qu'il nous reste une partie de cette correspondance que Raymond Nave avait avec un frère dominicain et dans laquelle il met en place un faux dialogue entre un homme qui croit et un homme qui ne croit pas, et en montrant en même temps cette extraordinaire ouverture d'esprit de Raymond Nave. Raymond Nave est athée, c'est une évidence, mais il est absolument pas anticlérical et il a une vision extrêmement positive de la laïcité.
Alors, nous allons revenir en détail sur tous les aspects de la vie et des engagements de Raymond Nave. Auparavant, si vous le permettez, je voudrais rappeler quelques éléments de biographie à votre sujet, de votre biographie à nos auditeurs. Et vous me corrigez, vous m'arrêtez si je commets des erreurs. Donc, vous êtes agrégé d'histoire. On peut dire que vous êtes un historien du syndicalisme. Vous avez été enseignant au lycée Raymond Nave de 1999 à 2016. Vous avez été responsable syndical au SNES. Vous êtes membre de l'association du mémorial Forain François Verdier et membre de l'association des amis du musée de la résistance et de la déportation de Toulouse. Vous avez exercé des fonctions de secrétaire général d'un institut qui s'appelle l'Institut de recherche sur l'histoire du syndicalisme dans les enseignements du second degré. Je ne connaissais pas cet organisme très spécialisé.
Oui, c'est très spécialisé, l'IRSES. On a décidé, enfin moi je suis arrivé en cours de route, de préserver les archives du syndicat et de les classer et de les utiliser, soit mettre à la disposition de chercheurs, soit de les utiliser nous-mêmes dans une revue qui s'appelle Point de repère, à des fins essentiellement de formation syndicale.
D'accord.
Ce qui nous ramène à Raymond Nave sur les collèges du travail.
Tout à fait. Alors, en termes de bibliographie, vous avez publié divers ouvrages et vous n'en êtes pas à votre première biographie puisque vous avez commis, si je puis utiliser ce terme, des biographies de plusieurs militants syndicaux de l'éducation.
Oui, alors c'est des biographies beaucoup plus courtes que celles de Raymond Nave puisqu'elles sont publiées dans le dictionnaire du mouvement ouvrier, autrement connu sous le nom du Métron. Et donc, ce sont essentiellement, effectivement, des biographies de militants syndicalistes. On avait comme objectif à l'IRSES de faire les biographies des militants syndicalistes du second degré. Et puis, après, ça s'est élargi à d'autres militants.
D'accord. Donc, vos travaux de recherche tournent autour de l'histoire donc, du syndicalisme enseignant, l'histoire du paritarisme également, et sur l'histoire du SNES, d'après ce que j'ai...
J'ai participé aux deux volumes publiés de l'histoire du SNES, des origines aux années 70.
Voilà. Alors, revenons à ce livre. Alors, ce livre, il a beaucoup de qualités, mais il a avant tout des caractéristiques un petit peu originales. C'est la première et la seule biographie de Raymond Nave. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, avant de vous demander comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à Raymond Nave, qu'est-ce qui vous intéresse de manière générale à faire une biographie, à avoir cette démarche qui consiste finalement à entretenir la mémoire. D'ailleurs, vous citez dans votre livre, à propos de ce travail, qu'il s'agit de faire renaître une mémoire, et au-delà, une personne, et non un personnage, encore moins un héros, notamment en parlant de Raymond Nave. Et vous appuyez sur une citation de Pierre Bourdieu, qui dit « Citer, c'est ressusciter ». C'est ça le plus important ?
C'est tout à fait le plus important. La vie d'un homme est indissociable de son œuvre. Ça, c'est pas de moi, mais c'est tellement vrai. Et puis l'oubli, c'est effectivement une petite mort pour ces hommes et ces femmes qui ont joué un rôle à divers moments de l'histoire et que l'histoire a oublié. Et effectivement, la biographie permet d'aller chercher au plus profond de ces personnages. Et justement, de démasquer un petit peu tout ce qui tourne autour de l'héroïsme et d'aller voir un petit peu ce qui les animait, eux, véritablement.
Alors, vous nous entraînez vers le personnage de Raymond Nave et on s'aperçoit très vite que Raymond Nave, c'est quelqu'un qui avait un petit peu disparu des écrans. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Parce que c'est objectivement, une fois qu'on a lu votre livre, on saisit la dimension d'abord toutes les dimensions de l'intéressé, le côté humanisme, le côté engagement, le côté volontariste, et on s'aperçoit que effectivement il est mal connu. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours de Raymond Naves pour qu'il soit et qu'il fasse partie en quelque sorte des oubliés de l'histoire?
Alors on va prendre, si vous voulez bien, les choses par la fin. Pierre Laborie a employé un terme tout à fait important qui s'appelle l'héroïsation. Raymond Naves, il meurt dans l'oubli, tellement dans l'oubli que la presse résistante qui annonce sa mort le fait mourir à Buchenwald, alors qu'il est mort à Auschwitz. Il meurt, comme tant d'autres, dans un camp. On n'a évidemment pas de corps et on va apprendre sa disparition bien longtemps après son décès réel, la date de son décès, par ceux qui vont revenir et notamment par un de ses camarades qui va annoncer qu'il était avec lui à Auschwitz et qu'il l'a vu mourir. Le deuxième élément... Et la comparaison est à faire là avec quelqu'un dont la mémoire a été multipliée, encensée, et c'est François Verdier. François Verdier, il est tout le contraire de Naves. Il est un homme beaucoup plus public que Raymond Naves en tant que militant résistant. Il est assassiné dans des conditions absolument sordides, mais on retrouve son corps. Et immédiatement, sa mémoire se met en place par ses camarades de combat. Raymond Naves, il est arrêté un matin, et puis il disparaît dans le... Alors, on a, j'en parle beaucoup dans le livre, hein, on a quelques témoignages, des témoignages de la prison, des témoignages du camp de Compiègne, un ou deux témoignages de Auschwitz, mais après, il n'y a plus rien. Donc, on se souvient à Toulouse, au moment de la libération, et ce qui est tout à fait frappant, c'est que dans tous les discours qui sont faits place du Capitole à la libération de Toulouse, son nom n'est jamais cité. Il n'est pas cité par Ravanel, il n'est pas cité par Berthaud, il n'est même pas cité par celui qui va le remplacer à la mairie de Toulouse, puisqu'il avait été désigné par ses camarades socialistes pour être le maire de Toulouse à la libération. Et donc, il disparaît, et puis la municipalité toulousaine lui donne un nom de lycée et un nom d'avenue.
Beaucoup plus tard, d'ailleurs.
Ça se fait assez vite. Mais quand on interroge, moi, je me suis pris à ce jeu, notamment avec mes élèves au lycée Raymond Naves. Raymond Naves, c'est un lycée et une avenue, hein. C'est-à-dire que il y a pas de chair, comme aurait dit Marc Bloch derrière ça. C'est pour cette raison. En même temps, il n'est pas un des responsables des grands mouvements de résistance. Il est un homme de parti politique. C'est un socialiste qui va se battre pendant la résistance contre certains avis, notamment de Jean Moulin et de Verdier, hein, qui considèrent que les vieux partis de la Troisième République n'ont rien à faire dans la résistance. Et lui, il va se battre, et on revient... À votre question de départ, on revient à Jaurès pour que le parti de Jaurès ne meure pas et qu'il ne disparaisse pas avec la catastrophe de 1940.
Et il le fait, il faut le signaler, avec une ouverture d'esprit qui consiste à dire je ne veux pas forcément imposer le socialisme ou les idées politiques, mais il le fait parce qu'il est convaincu qu'ils ont une contribution spécifique à apporter.
Absolument. C'est une force parmi les forces de la résistance. Il ne voulait pas qu'elle disparaisse, mais il n'a jamais été question pour lui que les socialistes dans la résistance exercent une quelconque hégémonie.
D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez que ses camarades à la Libération avaient tendance à l'oublier, notamment dans les discours. Et vous avancez une explication aussi qui est plus générale, c'est de dire qu'il y avait à la Libération une certaine bataille entre les dépositaires de la mémoire de la Résistance et que ça, effectivement, ça a contribué à le faire passer un peu aux oubliettes. Alors, Pierre Petermann, Comment avez-vous rencontré Raymond Nave? Comment fait-on pour rentrer en contact avec ce personnage? Et comment fait-on pour décider de dire, bon, mais ce personnage, il faut absolument en rédiger la biographie?
Alors, soyons honnêtes avec nos auditeurs. Quand je suis arrivé à Toulouse en 1990, et que j'ai été nommé au lycée Raymond Nave, j'ignorais totalement qui était ce personnage. Et puis, hasard des circonstances, l'Ordre National du Mérite décore le lycée Raymond Nave. C'est une tradition de l'Ordre National du Mérite, on ne décore pas un homme, on décore un lieu. Et donc, à partir de là, le chef d'établissement de l'époque dit, voilà, l'Ordre National du Mérite nous demande deux choses, un cocktail, une exposition. Le cocktail, c'est moi, l'exposition, c'est vous. Et on se lance dans l'affaire avec des collègues, avec des élèves. Et puis, je ne sais pas si c'est le réflexe de l'historien ou en tirant sur le premier morceau de ficelle, il y a plein de choses qui arrivent. D'un personnage, d'abord, qui est extrêmement complexe. C'est pas la biographie d'un résistant. D'ailleurs, il n'y a pas matière à faire un livre sur Raymond Nave résistant. Tout simplement parce que, évidemment, les résistants, par sécurité, ils n'écrivaient pas, et donc on n'a pas de source. Hein. Mais par contre, là, je découvre l'importance, et puis deuxième élément, et ça me permet de rendre hommage à sa mémoire, on a une chance inouïe, c'est que je savais que Raymond Nave avait eu un fils. Je m'étais dit, comme Raymond Nave était à Toulouse, son fils doit être né à Toulouse, et évidemment, j'aurais pu chercher longtemps, étant donné que Francis est né à Montpellier. Et c'est deux élèves qui m'ont dit, monsieur, on a retrouvé le fils de Raymond Nave. Je dis, comment vous avez fait? Alors, ils m'ont regardé avec un air un peu gêné. Internet, monsieur. Et chance, il y a deux Francis Nave qu'ils ont trouvé, qui étaient évidemment dans les clous, c'est-à-dire nés en 1926. Et il y en a un qui était dans le Nord et un autre qui était dans le Gard. Le nôtre était dans le Gard et Francis nous a accueillis, deux profs et deux élèves, chez lui pendant tout un week-end. Il a sorti les vieux papiers, on y a été les uns après les autres de nos larmes. Et donc ça a été un lien. Et pour Francis, c'était aussi important que j'aille au bout. J'avais décidé d'aller au bout, en sachant pas d'ailleurs si un bout, il y en aurait un. Et puis, les archives ont montré qu'il y avait quand même beaucoup de choses, à condition d'aller les chercher. Et puis, pour la mémoire de son père, c'était extrêmement important que je puisse livrer cet ouvrage à Francis Nave, et puis comme au niveau du lycée, on titillait en disant il faut que t'écrives, et puis je rends hommage aussi là, à Élyrica Leroy, quand elle a sorti son Verdier, elle m'a dit il est extrêmement important que Nave ait aussi sa biographie, donc je m'y suis collé, et voilà le résultat.
Alors nous allons voir comment vous avez procédé, mais auparavant, je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant Jacques Brel.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Pretremann pour son ouvrage Raymond Nave, un humaniste en résistance, paru aux éditions Loubataire. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir, pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pierre Pretremann, ce choix s'imposait ?
Absolument. L'évocation de la misère sociale à laquelle Raymond Nave est extrêmement sensible. Il a fait plusieurs interventions dans des congrès, parce qu'on a parlé de Raymond Nave socialiste, mais il y a le Raymond Nave syndicaliste, et il a fait plusieurs interventions dans les congrès de la CGT où il exposait justement son point de vue sur la misère ouvrière et sur l'émancipation indispensable des personnes les plus fragiles.
Nous allons, si vous le voulez bien, vous demander de nous faire mieux connaître Raymond Nave. Alors, pourriez-vous nous dire dans quelle année il est né, où est-ce qu'il est né, quel était son milieu d'origine?
Alors, il est né à Paris en 1902. Il est né à Paris, il est originaire d'une famille de la région toulousaine, puisque la famille Nave est originaire de Poucharamé, c'est à côté de Rieum. Et donc, il naît à Paris tout simplement parce que son père, qui est fonctionnaire au ministère des Finances, travaille à Paris. Il va ensuite faire des études. Il va traverser les études comme une comète. Hein. C'est-à-dire qu'il va. Alors, il va suivre son père. Donc, il va commencer à Paris. Son père va être ensuite nommé à Bordeaux. Et puis, la guerre de 14 éclate. Son père s'engage alors qu'il a dépassé l'âge. Il est donc engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale. Raymond Nave se retrouve à ce moment-là à Bordeaux. Il va rester à Bordeaux jusqu'à l'équivalent de ce qu'on appelait la 7e, qui est l'équivalent de CM2. Puis après, retour à Toulouse parce que son père revient de la guerre en 1917 tellement détruit qu'il ne peut pas reprendre son travail. Il est mis à la retraite. Et donc, retour de la famille à Toulouse, fin des études au lycée de garçons, classe préparatoire, école normale supérieure, agrégation de lettres, enfin, un parcours extrêmement brillant.
Oui, vous précisez agrégation de lettres à 21 ans, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il est enseignant à 21 ans. Il va avoir après un temps d'enseignement tout à fait classique, puisqu'il va être nommé dans l'enseignement secondaire, d'abord dans sa région, puisqu'il avait demandé à être dans le sud, donc il va commencer à Carcassonne, puis on va lui faire un petit pèlerinage dans le nord, à Douai, et puis après il revient, il va rester un certain nombre d'années au lycée de Béziers, puis après c'est les classes préparatoires, Marseille, Paris, et puis la thèse. Fameuse thèse, le goût de Voltaire, thèse qui fait encore office de référence sur Voltaire aujourd'hui. Et puis l'université, là il obtient enfin son arrivée, son retour dans son cher sud, et donc nomination à la faculté des lettres de Toulouse.
Alors c'est un enseignant qui est très apprécié, mais c'est aussi un enseignant qui est très actif et qui ne fait pas que de l'enseignement. C'est un personnage qui s'engage et il a notamment un engagement syndical très marqué, très fort à la CGT. Et vous pointez du doigt dans votre ouvrage que c'est un choix qui est lourd de signification, au moins à cette époque. Vous pourriez nous expliquer pour quelles raisons ?
Alors d'abord parce que il y a très peu d'enseignants qui sont d'enseignants du secondaire et du supérieur qui sont à la CGT. Ils sont très peu nombreux. Le syndicalisme est plus un syndicaliste autonome. S'engager à la CGT, c'est un choix, c'est un vrai choix social, un vrai choix politique. Et puis, c'est surtout le fait qu'il y a des objectifs. J'évoque dans mon livre la personnalité de Ludovic Zoretti, qui va être le fondateur du syndicat de l'enseignement secondaire et supérieur à CGT. Et l'idée, c'est transformer l'école. Et ça, c'est extrêmement important parce que, certes, Raymond Nave a beaucoup de cordes à son arc, mais il est d'abord et avant tout un enseignant. C'est cet humanisme-là qui est important. Hein. On émancipera les individus qu'à partir du moment où ces individus seront éduqués. Et c'est quasiment un humanisme 16e siècle, hein. Et donc, y a ça, et puis il y a cet engagement. Alors, l'engagement, il vient du père. Hein, le père, François Nave, a été conseiller municipal socialiste à Toulouse. J'ai fouillé un petit peu dans la famille Nave des générations antérieures. Et donc, son arrière-arrière-grand-père est qualifié de républicain à l'époque du Second Empire. Et ce sont, alors vous parliez des origines, c'est l'aristocratie agricole. Hein. C'est des propriétaires terriens qui sont marqués un peu par ce sud de la France post-révolution française qui vraisemblablement ont récupéré des terres avec la vente des biens d'église, etc., et qui sont en même temps progressistes.
Alors, au-delà de son engagement syndical, naturellement, il y a un engagement politique auquel vous avez fait allusion. Il adhère à la SFIO, son modèle, on en a parlé, c'est d'humanisme, c'est Jean Jaurès. Et il prend des positions très tôt, qui sont d'ailleurs des positions qui renvoient à des notions très d'actualité, puisqu'il est favorable à la proportionnelle, il est favorable
à la proportionnelle intégrale.
Intégrale, voilà. Donc ça c'est très très important et c'est novateur par rapport à l'époque.
Ben c'est tout son attachement à la démocratie, c'est-à-dire que suffrage universel nécessite l'éducation des citoyens et en même temps, à partir du moment où ces citoyens sont éduqués, ils doivent avoir une représentation qui correspond à leur choix politique et donc pour lui, la proportionnelle intégrale est... Et puis, il prend des engagements aussi sur la différence entre compromis et compromission. C'est-à-dire qu'il va se battre pour que les socialistes ne participent pas à ce qu'on appelait à l'époque les gouvernements bourgeois. Là aussi, on est sur des thèmes d'actualité brûlante.
Ouais. Alors, au-delà de ça, naturellement, il est favorable au désarmement. Et au niveau de l'organisation de la société, de la protection sociale, par exemple, il est favorable aux assurances sociales. Et une chose sur laquelle ça vaut la peine d'insister, c'est qu'il a une autre conception du travail. Et vous expliquez dans votre livre, vous faites une citation par laquelle on comprend qu'il est favorable, qu'il qualifie la paresse de travail libre même.
Oui, alors ça correspond aussi à une revendication très très puissante hein, d'après Première Guerre mondiale de la CGT, c'était sur la journée de 8 heures, et le temps libéré Et le temps libéré, c'est pas alors ce qu'il appelle bon la référence à Lafargue, mais c'est ce qu'il appelle lui la paresse, c'est du temps pour s'éduquer, du temps pour comprendre, pour pouvoir analyser la société, etc. Ce qu'il va mettre en pratique avec un autre personnage oublié, d'ailleurs, de la résistance toulousaine, Julien Forgue, secrétaire de l'UDCGT, quand ils vont mettre en place les collèges du travail.
Dans lesquels il va fortement s'impliquer.
Ah oui, il est c'est le seul universitaire qui est secrétaire d'un collège du travail en France.
Donc c'est un homme qui a des idées bien arrêtées et qui est cohérent avec lui-même puisqu'il les affirme et il les soutient. Alors parmi ces idées, il y a cette notion de pacifisme, d'internationalisme et d'engagement européiste. Alors vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cet engagement européiste ?
Mais Raymond Naff considère que les relations intellectuelles beaucoup, commerciales aussi, c'est un facteur, entre les peuples, c'est un facteur de paix. De ce point de vue-là, il est tout simplement dans la suite, hein, dans une suite logique qui commence avec Victor Hugo et qui va continuer avec tous les penseurs européens du 19e siècle. C'est-à-dire que quand les peuples se parlent, quand les peuples échangent, les guerres sont éloignées. Et ce qui est éloigné aussi, c'est les volontés d'impérialisme divers et variées. Et la domination, il a une position extraordinairement jaurésienne, parce que là, c'est presque mot pour mot avec Jaurès sur l'Allemagne. Pour lui, l'Allemagne, c'est un pays comme les autres. Il a une grande il lit et écrit l'allemand, hein. Et il a une connaissance des humanistes allemands, de la philosophie allemande du 18e, et donc il va être cinglant avec certains, notamment au moment où la guerre apparaît comme inévitable, en disant attention, le peuple allemand, c'est pas un peuple qui a pour vocation de dominer le monde et de faire la guerre aux autres.
Alors, il a donc des idées et des engagements très forts, et notamment au sujet du pacifisme, on s'aperçoit que son engagement, ce n'est pas un engagement de jusqu'au boutiste, puisque très rapidement, il est hostile à la politique de non-intervention en Espagne. Donc ça fait preuve de sa part d'un certain pragmatisme, d'une certaine souplesse dans sa vision des choses, qui lui ont valu pas mal de critiques d'ailleurs.
Ah ben oui, il est un peu dans cette position, dans les congrès, notamment dans les congrès socialistes, et surtout dans les derniers congrès socialistes juste avant la guerre, il est dans une position où le pacifisme montre ses limites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la guerre apparaît comme inévitable, le pacifisme n'a plus vraiment de sens. Et il va avoir raison, puisque certains de ses amis, j'évoquais tout à l'heure Ludovic Zoretti, vont aller jusqu'au bout de leur pacifisme qui va les amener à rentrer dans la collaboration. C'est... Raymond Naff, c'est pas du tout ça. Raymond Naff, il va être très vite. D'abord, il y a quelque chose qui pour lui est inacceptable, c'est la mort de la République. 1940, pour lui, est un choc. Il a beaucoup critiqué aussi l'attitude d'un certain nombre d'officiers de l'armée française pendant qu'il était sous les drapeaux, quand il était mobilisé. Et donc, il va défendre cette idée que, à partir du moment où la France est attaquée, elle a la légitimité de se défendre. Et à partir du moment où il y a la défaite, il va être absolument hostile à l'armistice et évidemment, par conséquent, au régime de Vichy.
Donc Raymond Naff est un personnage qui va jusqu'au bout de ses idées, qui est pragmatique, qui s'adapte à la situation. Et effectivement, aller jusqu'au bout de ses idées reste une bonne manière de qualifier son action. Et je vous propose maintenant de passer à la seconde pause musicale. Nous écoutons Georges Moustaki.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons notre découverte de Raymond Naves avec Pierre Petremann qui vient nous présenter son ouvrage Raymond Naves, un humaniste en résistance, paru aux éditions Loubater. Pierre Petremann, nous avons vu les engagements, les divers engagements de politiques, syndicaux, professionnels de Raymond Naves. Raymond Naves, par rapport à la guerre, s'est tout de suite engagé. Il l'a fait de même pour la résistance. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer son engagement dans la guerre?
Alors, Raymond Naves est tout simplement mobilisé. Il est officier de réserve, donc il est mobilisé dans les chemins de fer de l'armée. Et il va être régulateur sur deux villes qui vont être en première ligne très vite, c'est-à-dire à Reims et à Épernay. Il va avoir une attitude de véritable combattant. Hein. Toutes les remarques, tous les rapports que font les officiers, ses supérieurs à son encontre sont tout à fait élogieux. Il va organiser, si on pouvait organiser quelque chose à ce moment-là, la débâcle du matériel. Et surtout, il va être extrêmement critique, mais il n'est pas le seul. Hein. Dans L'étrange défaite, Marc Bloch dit à peu près la même chose sur ses officiers qui étaient beaucoup plus prompts à condamner la République qu'à se battre contre l'armée allemande. La fin de la guerre le laisse évidemment totalement hostile à l'armistice, mais ça ne va pas déterminer chez lui un engagement résistant immédiat. Raymond Naves est un homme qui réfléchit avant d'agir. La chanson de Moustaki dit jusqu'au bout, effectivement il va aller jusqu'au bout, et quel bout épouvantable, mais non sans avoir réfléchi il condamne sans problème le régime de Vichy, mais il a beaucoup de mal à accepter la disparition du Parti socialiste et surtout la trahison, hein, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, d'un certain nombre de ses élites, de ses dirigeants, y compris à la CGT. Hein.
Voilà. Et lui-même est dans une position où il reçoit des sollicitations de ses camarades ou de ses ex-camarades pour essayer de le convaincre d'aller dans leur chemin, c'est-à-dire de dire bon ben il y a peut-être des choses que l'on peut abandonner, il y a des ralliements qu'on peut faire, etc., etc. Et lui, il est constant dans son refus.
Ah, totalement constant dans son refus, que ce soit avec Ludovic Zoriti, un camarade de la CGT, il refuse aussi avec Jean Rivain dans les cercles Jeune France, parce que ces cercles ont été acceptés, adoubés par le régime de Vichy, et donc il ne rejoint pas, de la même manière qu'il ne rejoint pas, et il aurait pu rejoindre n'importe lequel des mouvements de résistance qui se créent à Toulouse, il aurait pu aller à Combat avec Oriou, il aurait pu aller à Libération Sud avec Forgues, il aurait pu aller à Libéré Fédéré avec Trentin, il les connaît tous. Et le monde intellectuel, le Toulousain, en 1940, est un petit monde, hein, où tout le monde se connaît. Et donc, il va tout faire pour que, comme il le dit, hein, il dit, si des socialistes ont trahi, le socialisme, lui, n'est pas mort. Et donc, on va mettre en place le comité d'action socialiste, qu'on peut appeler aussi Parti Socialiste Clandestin, mais qui est un embryon à Toulouse, hein, quand on a trouvé... Il y a un élément très, très clair dans les archives, la préfecture ne s'intéresse au comité d'action socialiste qu'à partir de 1943, et que ce n'était pas considéré comme un mouvement extrêmement dangereux.
Et donc, les événements se déroulent, et Raymond Nave... en fonction des circonstances, finalement, on se retrouve à embrasser un certain nombre de responsabilités et à s'exposer de plus en plus.
Absolument. Alors, on a parlé du comité d'action socialiste. Il faut évoquer aussi le réseau de renseignement Brutus, hein, qui est un des plus gros renseignements, un des plus gros réseaux de renseignement de la France libre. Ça va l'amener à avoir des contacts bien en dehors de la zone que l'on appelait à l'époque R4, hein, c'est-à-dire la Midi-Pyrénées, pour faire simple, et puis d'aller évidemment rejoindre la direction du Parti Socialiste à Lyon, de travailler avec des camarades de Brutus et du Comité d'Action Socialiste à Marseille, dont un a eu ensuite une vie politique importante, c'est Gaston Defer, hein. Et puis, bien sûr, on lui propose parce que c'est un leader, hein, c'est un leader qui fait pas de bruit, mais c'est un leader qui est d'abord extraordinairement respecté, et on lui propose d'être maire de la ville à la Libération. Et à chaque fois qu'on lui faisait ses propositions, de la même manière quand on lui a proposé d'être chef régional du comité d'action socialiste, il disait deux choses. Il disait, est-ce que j'en suis capable? Et ensuite, n'oubliez pas que je suis enseignant. Et ça, c'est une constante. Il n'a jamais abandonné son métier, à tel point qu'il est arrêté devant la porte de l'université à Toulouse en février 1944.
Alors, pour plus de détails, je renvoie les auditeurs à votre livre, au texte, pour qu'ils puissent mieux saisir l'ensemble des responsabilités qui ont été les siennes et la manière dont le temps l'a conduit à l'arrestation. Alors, vous décrivez très bien dans le livre l'arrestation, le passage à la prison de Saint-Michel, le convoi qui le conduit à Compiègne et ensuite le convoi vers la destination ultime. Ce que je souhaiterais que l'on fasse maintenant, c'est que l'on revienne un petit peu sur l'aspect littéraire. Vous dites dans votre livre que le second disciple de Voltaire, c'est Raymond Nave, juste après Frédéric II.
Oui. Oui, parce qu'il a écrit, il a fait l'appareil critique du Machiavel et de l'anti de Machiavel, du prince de Machiavel et de l'anti-Machiavel de Frédéric II. Et j'ai eu la chance, grâce à Francis Nave, d'avoir entre les mains une des toutes premières éditions de l'anti-Machiavel, avec les notes de Raymond Nave au crayon à papier. Oui, il épouse à la fois les remarques de Voltaire, mais en même temps, il n'est pas... il est capable de dire aussi, quand Voltaire se trompe, vous voyez ce qu'on disait de Voltaire, hein, c'est qu'il commençait plein de choses, qu'il finissait jamais. Et Raymond Nave est parfaitement conscient de ça. Il pense Voltaire, mais bon, on est au XXe siècle, on n'est plus à l'époque de Voltaire, mais sur la question fondamentale de la tolérance, par exemple, il est totalement, totalement voltairien. Oui.
Donc c'est en 1937 qu'il publie, qu'il y a la publication de sa thèse qui s'appelle donc « Le goût de Voltaire ». Vous pourriez expliquer très rapidement à nos auditeurs pourquoi le goût ?
Ah, pourquoi le goût de Voltaire ? Parce que Voltaire, pour Raymond Nave, donne un nouveau sens à la littérature, et Voltaire a pour Raymond Nave une vision complètement nouvelle de l'analyse des sociétés et de la manière dont l'écrivain est en société ou doit être en société. C'est pour lui, Voltaire, c'est une véritable révolution littéraire, d'où la notion de goût, le goût de Voltaire.
Raymond Nave, c'est aussi un poète, puisqu'il il a écrit des poèmes rassemblés notamment dans un ouvrage qui s'appelle Vivace, et que vous avez qui a été publié après sa mort.
Vivace est publié en 1943
D'accord.
Par un imprimeur toulousain. Alors pas ceux qu'on connaît très bien, hein, les frères Lyon, oui. Mais Castelvi, qui est un des imprimeurs aussi de la Résistance.
D'accord.
Il écrivait. On a retrouvé en publiant Vivace, on a retrouvé deux poèmes de Raymond Nave qui avaient été publiés au Mercure de France avant-guerre. Et puis lui, il fait publier cela sans doute parce que il y a ce goût d'écrire surtout. Hein, j'ai intitulé un des chapitres de mon livre « Ne jamais cesser d'écrire ». Il faut savoir que Raymond Nave, entre 1940 et 1944, alors qu'il est un des principaux responsables de la Résistance toulousaine, va publier 8 ouvrages majeurs, dont, malheureusement, une histoire littéraire, il avait horreur du mot, mais l'aventure de Prométhée, dont nous n'avons que le premier volume, parce que les deux autres étaient manuscrits et ont été emmenés par la Gestapo en février 44, au moment de la perquisition de son domicile. Il va s'essayer aussi. Alors, son fils m'a dit... il a écrit une pièce de théâtre, mais il a préféré ne pas la publier. Donc c'est peut-être ça, mais on ne peut pas en juger puisqu'on ne la connaît pas. Peut-être son seul échec littéraire. Il fait autorité aussi dans des domaines qui ne sont pas simplement des domaines de la littérature du XVIIIe siècle. Hein. Il a travaillé sur les auteurs romantiques, etc. C'est un immense écrivain.
On peut dire donc que Raymond Nave, effectivement, est un immense écrivain, une immense culture littéraire et historique, une puissance de travail remarquable également, mais surtout un homme de la réalité et toujours attentif aux autres.
Absolument. Un homme... est-ce que je peux tenter ça ? Oui, un homme ordinaire. Voilà. C'est ce qu'il dit dans le
dit
texte
lui-même.
Que vous avez lu au début, c'est-à-dire... Bah oui, c'est classe moyenne éduquée, qui travaille, qui regarde, qui a une capacité de regard, de regard du monde, et puis qui est extraordinairement modeste. Et c'est pas de la fausse modestie, hein, il est vraiment comme ça. Et puis qui va avoir une vie aussi complètement normale. Hein. C'est ça aussi le. On a toujours l'image du résistant qui passe son temps à faire sauter des voies ferrées. La plupart des résistants, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à mener leur lutte jusqu'au bout, ils sont dans la vraie vie. C'est pas des héros. Ils sont dans la vraie vie. Raymond Nave est complètement dans la vraie vie. Il va faire ses cours. Et quand ses camarades lui disent « Bon, maintenant, au point où tu en es, il faut que tu ailles dans la clandestinité », il dit « Non, non, faut que je termine mon cours d'agrégation ».
Donc, à l'issue de cette émission, je pense que les auditeurs comprennent mieux le titre de votre ouvrage, Raymond Nave, un humaniste en résistance, je le rappelle, paru aux éditions Loubatière en 2020. Merci beaucoup, Pierre Petremann, d'être venu nous parler de Raymond Nave.
Merci beaucoup, Philippe Gilbert.
Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Christophe Aubry à la technique. Et bonne lecture à tous.